9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Jean-Michel Guenassia.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes fait connaître dès votre premier roman, Le Club des Incorrigibles Optimistes, prix Goncourt des lycéens, c'est en 2009, qui est devenu un best-seller. Combien de ventes ?
Oh, un peu plus de 2 millions dans le monde.
Combien de traductions ?
22.
22 traductions, en gros, c'est un roman d'apprentissage sur fond de guerre d'Algérie, de rideaux de fer, des intellos parisiens, des exilés de l'Est, des vies bousculées. Roman salué par la critique, François Bunel, Paris Match, Le Figaro, Le Monde, Télérama, Les Échos. Je vais citer Baptiste Liger dans Lire, c'est sur le bandeau de votre livre. À la lecture des presque 800 pages de ce roman hors du commun, on a l'impression d'assister à la naissance d'un vrai grand romancier, Jean-Michel Guenassia, à la manière d'un Jonathan Coe, la référence. Voici, répétons-le, un petit miracle, un grand roman populaire français qui n'abandonne pas toute ambition littéraire et historique. C'est Baptiste Liger qui écrit ça. Depuis, vous avez publié 4 romans avec des personnages à chaque fois différents. Mais votre actualité, c'est en quelque sorte la suite du Club des Incorrigibles Optimistes, un roman que j'ai ici, Les Terres Promises, chez Albin Michel. Si j'ose dire, on prend les mêmes, non pas et on recommence, mais on continue.
On continue, oui, ça s'enchaîne. Alors, c'est un roman qui est autonome et indépendant, on peut le lire sans avoir lu Le Club, mais je voulais depuis toujours écrire une suite. J'y ai travaillé pendant un an après la suite du Club sans y arriver. J'ai laissé tomber, j'ai écrit d'autres romans en attendant, et à chaque fois je revenais sur la suite sans trouver la solution, j'étais bloqué, ça ne fonctionnait pas. Et puis ça a fini par se débloquer un jour d'une façon assez...
Ce fut quoi le déclic ? Parce que vous parlez souvent de déclic dans votre livre.
Alors, le déclic, ça a été à Moscou, où j'étais en vacances avec ma femme. Et j'ai été sidéré de voir un pèlerinage le long de la Moscova. Sur 7 à 8 kilomètres, il y avait 7, 8, 10 personnes qui avançaient de front sur 7 à 8 kilomètres.
Pèlerinage religieux.
Un pèlerinage religieux. Des gens qui voulaient rentrer dans la cathédrale du Christ Sauveur qui est au bord de la Moscova. Et mon éditrice russe m'a dit qu'il y avait 700 à 800 000 personnes qui faisaient ce pèlerinage. Ouais. Et j'ai été sidéré. Moi, j'allais pour voir les églises et les icônes.
Et je comprends ce qui vous a frappé, je vais l'expliciter pour les plus jeunes, c'est qu'autrefois, du temps de l'URSS, c'était l'opium du peuple, la religion, qui avait été bannie, chassée, pire que ça, par Staline.
Absolument. Et dans ce pays qui a été privé de religion... de voir des gens qui avaient 30, 40 ans, mais les églises sont pleines, sont bondées. Ouais. Et je me suis dit que c'était ça le sujet du roman, c'est que Le Club, c'était un roman sur les utopies. Et aujourd'hui, la nouvelle utopie qu'on rencontre, qu'on croise partout dans le monde, en Russie, l'orthodoxie d'une puissance colossale, mais les fondamentalistes, dans plein de pays, les intégristes, les évangélistes, ouais, aux États-Unis.
C'est la nouvelle utopie. Mais alors, ce que vous me racontez là, ce sont les années 2000. Or, votre roman, il se passe dans les années 60. Donc, l'utopie, ce n'est pas la religion. Dans votre roman, l'utopie, c'est Refusnik, c'est les Russes qui quittent, les Russes et les gens des pays de l'Est qui quittent le rideau de fer, enfin, qui le traversent pour venir en Occident. Sont aussi, par exemple, la guerre d'Algérie avec un des héros qui va s'engager là-bas. On va en parler après l'indépendance algérienne. Il y a aussi les gens qui vont faire leur alia et qui partent en Israël.
Oui,
c'est davantage politique que religieux dans ce roman.
Pas seulement, parce qu'en réalité, le cœur du roman, ouais, c'est l'histoire d'hommes qui passent leur vie à chercher leurs enfants dont ils ont été séparés.
C'est vrai.
Et donc, que ce soit Igor, que ce soit Franck, ce sont des gens qui souffrent énormément d'avoir été privés de leur famille et qui cherchent désespérément leurs enfants.
Ouais.
Donc, le roman s'arrête en 2007. Avec cette ouverture sur la foi.
Ouais. Alors, il y a aussi un portrait savoureux de la France d'avant mai 68. C'est vraiment très, très drôle. Il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un couple moderne. Il y a une fille, Louise, qui se partage entre deux garçons. J'en parle parce que c'est Michel, le narrateur, ouais, et un certain Jimmy qui fait du cinéma. Suivant les jours, elle est avec l'un ou avec l'autre. Et là, on se dit, mais c'est quand même très, très, très moderne. Vous l'avez inventé ? Vous l'avez piqué à Jules et Jim ?
Non, mais on n'a pas attendu quand même. Là. C'est des choses qui sont... fréquente dans toute l'histoire. On n'a pas attendu là. C'est pas une preuve de modernité de notre époque. Ça a toujours existé.
Je veux dire, ce qui est très amusant dans ce livre, c'est qu'on se dit, quand on voit ça, on se dit quand même, on se croirait dans Jules et Jim, le film de Truffaut. Guenassia n'est pas allé chercher bien loin. Eh bien, si, parce que vous emmenez vos héros aller voir, aller au cinéma, voir Jules et Jim, et la fille trouve ça nul.
Elle déteste, parce qu'en réalité, je trouve qu'il y a un malentendu sur Jules et Jim. Ouais. Catherine, là, l'héroïne jouée par Jeanne Moreau, elle n'est pas si sympa que ça, puisqu'elle tue Jim.
Ouais. Elle racontait pas la fin.
Non, mais c'est dans le film.
Le film.
Et Louise déteste ce film, parce qu'elle dit, quand on aime, on ne tue pas celui qu'on aime, on le laisse vivre.
Et quand on aime, on ne compte pas. D'où, je pense à ça, 1+2. On est dans le film. Il y a beaucoup de moments, parce que c'est à la fois une histoire grave et une histoire légère. Il y a de la grande histoire, de la petite histoire. Comment les héros s'imbriquent dans l'histoire presque de la fin du XXe siècle, d'après la guerre. C'est dans les Terres Promises. On continue à parler avec vous, Jean-Michel Guennassia. Et pour vous connaître davantage, le portrait inattendu, c'est Hélène Manarino qui arrive. Les Terres Promises, c'est le nouveau roman de Jean-Michel Guennassia, c'est le retour des incorrigibles optimistes, c'est ce que nous dit le bandeau d'Albin Michel, ce sont les mêmes personnages qu'on suit quelques années plus tard. Et les Terres Inconnues, c'est Hélène Manarino qui va peut-être nous aider à les dévoiler, c'est l'heure du portrait inattendu. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Jean-Michel Guennassia, Hélène Manarino, Jean-Michel Guennassia.
Bonjour Jean-Michel Guennassia. Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors vous êtes secret, très secret, vous pensiez y échapper, mais c'était hors de question, même avec très peu d'infos, de ne pas vous faire ce portrait. Alors je ne dévoile pas tout ce matin.
Ouais, parce que c'était pas facile. Hein.
C'était pas facile, il faut le dire, à nos auditeurs. Peu de choses, mais promettez-nous de revenir pour un long portrait inattendu. Et je vais quand même essayer de vous surprendre. Jean-Michel Guennassia, ou plutôt Riquet à la houppe, votre surnom petit.
C'est vrai.
Oui, c'est une vieille histoire.
Ah bah oui, bah c'est ça.
Première info, c'est bon. Votre rêve, Denis, devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous collectionniez les livres cartonnés de Jules Verne. Vous étiez fan de Babar. Ce qui pouvait vous agacer, que l'on vous prenne pour un bébé, eh bien oui. Et surtout, les châteaux de sable que vous fabriquiez et qui s'effondraient toujours. Alors, enfant gourmand, oui, Jean-Michel Guennassia, surtout d'un plat, les chaussons à la tomate.
Et
votre enfance a été aussi marquée par cette musique. On a presque envie de danser un rock.
Voilà. C'est qui ça ?
24.
C'est Bill Haley ?
Bill Haley, ouais. Exactement.
Mais ça a été un vrai choc.
Ah oui ?
Ah, ça a été un jour, à la radio, à LG, on entend ça. C'était une musique de Martien. Qui sait, qu'est-ce que c'est ?
Ouais.
Ça a commencé comme ça.
Alors, on va passer à votre scolarité, marquée par vos professeurs de français, M. Léotard.
Oui, Philippe Léotard.
Philippe Léotard,
qui était mon prof de français au Collège Sainte-Barbe.
Ouais.
Et c'était un type fabuleux, qui dénotait par rapport aux autres profs, qui étaient un peu guindés.
Ouais.
Il était proche des élèves, il rigolait avec eux, il nous a poussés à lire... C'était un homme fabuleux.
Le Collège Sainte-Barbe, c'était à Paris ?
À Paris.
Et là, on imagine le cercle des poètes disparus. Il montait sur la table ou pas loin ?
Pas loin. C'était, oui, il y avait de ça.
Il est pour quelque chose dans votre vocation ?
Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui était d'une proximité, c'était un adulte avec lequel on se sentait bien.
Il y avait aussi Monsieur Icor. Alors vous étiez un bon élève, un élève brillant, mais très dissipé. D'ailleurs, vous étiez collé toutes les semaines pour bavardage. Votre priorité, votre première copine, petite copine, Dominique, rencontrée en troisième, avec qui vous partagez votre vie donc depuis 57 ans. Et vous êtes allé devant son lycée pour la conquérir. Vous aimiez écouter les Stones, les Beatles et ça. Salut les copains. Jean-Michel Guennassia, passons à votre vie aujourd'hui, passionné de lecture américaine. Vous continuez de voyager en écoutant de la pop anglaise comme Bowerbirds ou encore les Strokes. Eh oui.
C'est vrai ?
Non, je n'écoute que ça.
C'est pas vrai, alors jamais j'aurais cru ça de vous. Pardon de vous dire ça, mais je vous imagine en train d'écouter les Strokes à fond, j'adore.
Hélène. Mais dans votre carte de voyage, il y a surtout ça. La musique italienne, l'Italie, l'osso buco et votre plat préféré. Alors il y a aussi la blanquette, le sauté de veau, le bœuf bourguignon. Eh oui. Vous adorez explorer Padoue, vous avez visité l'Italie du nord au sud. Vous aimez cette culture italienne, je vous comprends. Alors à cela, on peut ajouter votre goût pour le vin français aussi. Jean-Michel Guennassia, épicurien, oui, vous avez trouvé la méthode pour rester en forme. Monter et descendre les escaliers de chez vous plusieurs fois par jour pendant le confinement, c'était l'une de vos activités. Vous n'êtes pas contre vous détendre en lisant votre livre de chevet du moment, Les Mémoires de Saint-Simon. Alors Jean-Michel Guenassia, mon enquête a respecté votre pudeur, certes, mes sources aussi, mais on n'abandonne jamais rien dans Culture Média. Alors un jour, je ferai votre portrait complet et on a aussi parfois des incorrigibles optimistes.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction ?
Non, c'est un résumé de plein de choses, de souvenirs qui reviennent que j'avais un peu
oublié. De Ricky Lahoup aux Strokes, quel portrait. Merci Hélène, à demain.
À demain.
Jean-Michel Guenassia reste avec nous, on va parler de musique avec Angèle Châtelier. Elle veut nous faire découvrir un album produit dans des conditions bien particulières.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Michel Guenassia, Les Terres Promises, c'est son nouveau roman qui vient de sortir chez Albin Michel. On voyage beaucoup dans ce livre, Tout part de Paris, évidemment. Enfin, évidemment, non, Tout part de Paris, pour qui aurait lu le précédent, Le Club des Incorrigibles Optimistes. Mais ensuite, il y a plusieurs protagonistes qui partent en Israël, chacun pour ses raisons, pays en devenir, on a beaucoup lu là-dessus. En revanche, on a très peu lu sur l'Algérie d'après l'indépendance, puisque un des héros y va. De mémoire, je dirais que c'est Franck. Donc l'Algérie d'après le 5 juillet 62. Pourquoi vous êtes intéressé à cette période ?
D'abord parce qu'il n'y a rien, c'est un trou noir devant nous, il y a une littérature colossale sur la guerre d'Algérie, mais après le juillet 62, l'indépendance, et c'était un nouveau monde, c'était une terre promise. Il y a des milliers de gens qui sont allés en Algérie pour construire, reconstruire le pays, l'aider à démarrer. Il y avait plein d'espoir de bâtir un monde meilleur. Ça a duré un an ou deux, et puis ce rêve, cette terre promise, s'est complètement effondré.
Et délité. Oui. Vous-même, vous avez quitté l'Algérie à l'âge de 5 ans, vous venez en 5 ans, donc c'était en 55, et vous y retourniez
tous les ans pour les grandes vacances, pour voir mon père.
Jusqu'en 62. Jusqu'à l'indépendance. Ouais. Et vous y êtes retourné depuis ou pas ?
Non. Non, j'ai pas. Les circonstances, non. Ça fait que je ne suis pas retourné.
Il y a certaines personnes qui ne veulent pas y retourner de peur de souffrir ou de
de haine ou de quoi que ce soit.
Et Bilalet, dont nous parlions avec Hélène Manarino, vous aviez quel âge quand vous le découvrez et que vous êtes en Algérie ?
5-6 ans. Ça a été un choc. On n'avait que Luis Mariano ou Jean Sablon. Tout d'un coup, c'était une musique phénoménale. Et puis, il y avait Eddie Cochran, Buddy Holly.
Ce qui me frappe dans ce récit, c'est que ça frappe un enfant de 5 ans. Personnellement, c'est plus tard, c'est à l'adolescence qu'on s'ouvre.
Oui, mais là, j'en parle pas dans le livre, mais c'est vrai que j'ai été complètement imbibé de pop musique.
Et les Strokes, vous savez qu'il y a dans ce studio une fan des Strokes comme vous. Bonjour Angèle Châtelier.
Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de les voir en concert récemment, juste avant les confinements en plus.
Ouais. Et hors antenne, je vais quand même dire ce qui s'est dit, hors antenne, ils sont en train de parler tous les deux du dernier album des Strokes.
C'est Nuit Abnormal, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait, et c'est quand même un groupe phénoménal, parce qu'entre Julian Casabiancas et Albert Hammond, les deux leaders qui ont des carrières solo en plus, avec des albums qui sont extraordinaire, et Casabiancas qui a un autre groupe avec Voids, qui est tout aussi extraordinaire, auquel participent Albert Hammond et son fils. C'est vraiment des gens qui poussent la musique un niveau émotionnel.
Écrivez un livre.
Non, mais Angèle est en train de se dire qu'elle est en danger, qu'on pourrait vous prendre comme chroniqueur musique. Angèle, plus sérieusement, on va découvrir avec vous le nouvel album de Rover.
Oui, alors Rover, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, c'est les petits robots qui vont dans l'espace.
Le premier album était phénoménal. Oui.
De Rover ?
Rover.
Donc vous connaissez très bien. Écoutez, donc Rover, il y a aussi Persévérance qui est sur Mars en ce moment, mais ici, vous avez raison, Rover, c'est un nom de scène, c'est un chanteur, sa musique, quand bien même, a quand même quelque chose d'aussi vertigineux et voluptueux que le cosmos. Rover, c'est Timothée Régnier de son vrai nom. Il faut vous imaginer un grand gaillard costaud, cheveux mi-longs, mèche sur le front, terriblement talentueux, hypersensible, multi-instrumentiste. Et il dévoile demain son troisième album appelé Eiskeller, littéralement cave à glace en allemand, une glacière. Et vous allez comprendre pourquoi ce nom n'est pas anodin. Mais alors d'abord, écoutons-en un extrait. « Rover a toujours aimé composer seul, presque en ermite, coupé du monde.
Et c'est pour cet album aussi ?
Alors là, Philippe, il pouvait pas faire mieux. Pendant un an, il a passé son temps dans les anciennes glacières de Saint-Gilles, un complexe industriel souterrain qui est à Bruxelles, qui entreposait autrefois de la glace. Alors la pièce dans laquelle il travaillait faisait 250 mètres carrés, mais pas plus de 12 degrés. Et alors cette immensité, c'est ce qui donne cette résonance à ses nouvelles chansons. Je suis sûre qu'à cette table, tout le monde aime les Beatles.
Oui. Avec le temps, de plus en plus.
Oui, c'est vrai. Et bien, Rover aussi, John Lennon, notamment, fait partie de ses principales inspirations. Il aime tellement les Beatles que ces dernières années, il a été invité par la Philharmonie de Paris pour réinterpréter intégralement deux albums majeurs des Beatles, Sgt Pepper's et Revolver. Il y a quelque chose dans sa voix, d'ailleurs, qui rappelle celle de John Lennon. Il y a aussi cette manière de la doubler, sa voix.
Doubler sa voix, ça veut dire qu'il chante deux fois la même chose à l'unisson.
C'est ça, il fait deux pistes avec sa voix. Alors Rover, le solitaire, s'inspire donc aussi bien des Beatles que des chanteurs américains, lui qui a grandi aux États-Unis. Si vous voulez mon humble avis, Philippe, ce nouvel album est d'une beauté déconcertante. Il rend aussi cotonneux qu'amoureux. Il donne envie de prendre le large et de prendre le temps d'apprécier un beau paysage, l'ennui, la contemplation. Et il est fort à parier que Ice Killer, donc ce troisième album de Rover, soit aussi plébiscité par la critique que ses deux premiers.
Merci beaucoup, Angèle Châtelier, cotonneuse et amoureuse. Ça vous a séduit également ?
Tout à fait. Mais c'est un grand, parce qu'on ne peut pas vraiment le comparer à quelqu'un. Il est vraiment extrêmement original.
Mmh. On pense aussi à Robert Wyatt, si ça vous parle, avec cette manière de traiter la voix et de faire les choses tout seul. On va l'entendre ?
Oui, on va écouter donc Rover et un extrait de son nouvel album apparaître demain. Voici To This Tree.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Somehow all this nonsense races go, but it all comes back.
Quelle petite merveille, To Destroy, c'était Rover sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Louise Bernard qui va nous faire découvrir une alternative originale, même très originale, pour redécouvrir l'art. En compagnie de Jean-Michel Guénassia, Les Terres Promises, c'est son nouveau roman qui sort en ce moment chez Albin Michel. L'autre Terre Promise, c'est l'art contemporain et pas seulement. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
On attend la réouverture des musées, mais oui. Vous continuez de nous proposer des alternatives pour se frotter, pour nous frotter à l'art. Depuis chez nous, depuis chez soi.
Oui, alors je vous ai déjà conseillé des chaînes YouTube, des programmes humoristiques autour de l'art, des plateformes virtuelles même. Cette semaine, c'est une série, L'Art du Crime. Alors certains la connaissent peut-être puisqu'il y a déjà eu 3 saisons. La quatrième débarque demain soir sur France 2.
C'est une série sur l'art ?
Alors pas vraiment. En fait, c'est avant tout une série policière, du pur polar avec meurtre, enquête, police, coupable, etc. Quel rapport avec l'art ?
Oui.
Eh bien, chaque cadavre a en fait un lien avec un peintre ou un tableau. Quelques exemples pour mieux comprendre. Il existe un épisode où le propriétaire d'un faux tableau de Monet est assassiné. Un autre où une historienne de l'art meurt empoisonnée devant le radeau de la Méduse au Louvre. Ou encore un danseur de l'opéra qui est retrouvé mort avec un poème d'Edgar Degas enfoncé dans la gorge. Et pour résoudre ces enquêtes artistico-policières, un duo. Un policier et une historienne de l'art. Alors tous les deux, ils travaillent pour l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Et mêler l'art au polar, et bien c'est un bon moyen de renouveler ce genre policier un peu vu et revu. Angèle Héry Leclerc est une des créatrices de la série.
Les tableaux, c'est quoi ? C'est un ensemble de détails à regarder, de signes à interpréter. Les chercheurs sont aussi des enquêteurs, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, qui cherchent sur les peintres, qui cherchent sur les peintures. Et on s'est dit qu'on tenait peut-être là le point commun entre l'histoire de l'art et le polar qui nous permettrait de raconter des enquêtes policières. Dans l'art du crime, pour trouver le meurtrier, en fait, il faut regarder les peintures.
Regardez les peintures et les scènes de crime. Voilà ce que donne par exemple un dialogue entre le duo d'enquêteurs Florence Chassagne et Antoine Verlet. Alors ils sont sur le tournage d'une émission de télévision autour de Van Gogh où un consultant en histoire vient d'être retrouvé mort.
Le tueur devait savoir qu'il serait seul à ce moment-là. Vous voyez, genre sans témoin quoi.
Et il a été tué là où Van Gogh a failli mourir.
Ok, et quoi ?
Et il a été retrouvé dans une mare de sang comme lui.
D'accord, allez-y parce que je sens qu'il y a...
Bah, ça fait beaucoup de coïncidences quand même, non ?
Le tueur voudrait dire quelque chose ? Genre, en faisant ça là, ça serait une sorte de truc un peu symbolique, tout ça ?
Voilà, symbolique, oui.
Alors, je ne vous en dis pas plus sur la résolution de l'enquête, hein, mais l'épisode tourne en fait autour d'une thèse sur la mort de Van Gogh peu connue. Il ne se serait pas suicidé. C'est une thèse relayée récemment par la presse qui a inspiré les scénaristes, car la série s'appuie en fait toujours sur des faits ou des histoires autour des peintres. Pas d'invention, mais attention, ça reste une série, pas un cours d'histoire de l'art.
Moi, si on me faisait une leçon, je m'en irais en courant. Si j'ai envie d'entendre une leçon, je vais voir un documentaire, je vais dans un musée. C'est pas du tout notre objet. Nous, on fait des épisodes de séries. Et à partir de là, forcément, on a envie d'en mettre plein, mais on ne mettra que ce que l'histoire nous permet de décrire. Il y a plein de choses qu'on aurait eu envie de mettre davantage dans l'art du crime. Raconter quand on appelait Toulouse-Lautrec la cafetière, par exemple, c'est resté longtemps dans notre scénario. Et on n'a jamais réussi à le mettre dans notre scénario parce que ça ne tenait pas avec l'histoire qu'on racontait.
Et là, vous vous dites, mais pourquoi la cafetière ? Oui. Eh bien, j'ai la réponse pour vous, Angèle Héry Leclerc.
On sait qu'il avait un énorme sexe et donc les prostituées des maisons closes dans lesquelles il allait l'avaient surnommé la cafetière. Parce que les cafetières, avant, elles avaient un très très long bec.
Voilà, ce n'est pas dans l'épisode, mais c'est dans cette chronique d'Indispensable. Ne me remerciez pas. Toulouse-Lautrec, peintre du second épisode de cette nouvelle saison. Vous l'avez compris, c'est un vrai travail de recherche pour les scénaristes. Ils travaillent sans consultant en art, hein, mais simplement en se plongeant dans les livres pour trouver plein de petites anecdotes et d'informations.
Et alors justement, comment ils choisissent les peintres ou les tableaux de chaque épisode ?
Alors ça dépend. Pour Van Gogh, par exemple, ils avaient envie de faire un épisode autour de lui, mais pour d'autres, ils écrivent d'abord l'intrigue policière et ensuite ils se plongent dans ses livres pour chercher comment la raconter à l'art. C'est une série qui a vraiment le mérite d'être originale pour ce genre policier vu et revu, très subtil dans ce dosage de culture. Aucun problème pour la commencer si vous n'avez pas vu les saisons précédentes. Le premier épisode, c'est demain soir sur France 2 à 21h05. L'intrigue autour de Van Gogh, donc, avec un guest, comme on dit en bon français, Stéphane Bern, qu'on connaît bien ici.
Oui, qu'on connaît bien ici, Stéphane, son émission avec Mathieu Noël. Votre œil s'est illuminé, Jean-Michel Guénassia, à l'évocation du nom de Van Gogh, ce que vous avez écrit sur Van Gogh. Vous avez raconté les dernières années années de la vie de Van Gogh avec une thèse. Je raconte ce qui s'est passé. Il sort d'hôpital psychiatrique. Un ami, je crois que c'est Pissarro, lui dit « Je connais un médecin qui va s'occuper de toi, c'est le bon docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. » Il y va. Or, vous dites, le bon docteur Gachet n'était pas le philanthrope désintéressé qu'on a, que dit la carte postale, l'image d'Épinal, mais un peu cupide, il pensait faire de bonnes affaires avec Van Gogh. C'est votre thèse ?
Non, ma thèse, c'est qu'effectivement, Van Gogh ne s'est pas suicidé. Aujourd'hui, il y a un très grand livre écrit par deux historiens américains, Smith et Naïfé, qui prouve, enfin pour moi, que Van Gogh ne s'est pas suicidé. Et il va à Auvers-sur-Oise pour se faire soigner par le docteur Gachet. Il y a très certainement une histoire entre...
J'allais Van en parler.
Gogh,
c'est ce que vous racontez. Et la fille de Gachet.
Marguerite Gachet, qui explique la rupture brutale avec le docteur Gachet. Donc, c'est des choses qu'on peut déduire de cette vie. Mais. Bon, il ne s'est certainement pas suicidé, il n'avait aucune raison de se suicider.
Une chose que j'ai découvert en vous lisant, parce que moi je n'ai pas lu ces lettres, je l'avoue, vous avez lu toutes les lettres de Van Gogh et vous dites que ce n'était absolument pas quelqu'un de dépressif.
Non, il était plein de projets au mois de juillet 1890, au moment de son suicide, enfin son suicide présumé.
Ouais.
Il était plein de projets, il voulait retrouver Gauguin à Pont-Aven, peut-être partir avec lui, faire deux expositions avec son frère. Et pour la première fois, on commençait à parler de sa peinture dans des journaux. On venait de lui acheter un tableau. Ça commençait à bouger. Les plus grands peintres le reconnaissaient, Cézanne ou d'autres le reconnaissaient vraiment comme un très très grand peintre. Il n'était pas dépressif, il était plutôt cyclothymique et bipolaire. Mais certainement pas suicidaire.
Merci pour cet éclairage. Bah tiens, je vais le redire. C'est demain soir sur France 2, 21h05, l'intrigue autour de Van Gogh. Le nom de la série, Louise Bernard.
L'art du crime.
Merci beaucoup, Louise Bernard. À très bientôt. Et déjà, à demain pour les audiences. Dans quelques instants, la dernière ligne droite de Culture Média, toujours en compagnie de Jean-Michel Guenassia.
Indispensable, Nicolas Canteloup, tous les jours à 8h40 sur Europe 1.
Alors l'État court-il le risque de se retrouver avec trop de doses ? Bonjour Olivier Véran.
Madame Julie, au fait, vous voulez un petit vaccin ? J'ai plusieurs parfums, anis, rhum raisin, pistache, melon, fraise. Sachez que pour un vaccin ingesté, monsieur Cabrol, un passeport terrasse vous est offert.
Ah,
je prends.
Non, mais...
La revue de presque de Nicolas Canteloup. Premier podcast d'humour en France. Tous les jours à 8h40 sur Europe 1. Abonnez-vous dès maintenant.
La bonne idée sur but.fr, c'est jusqu'à moins 50% sur toute une sélection de literies. Pratique si on fait des insomnies. On peut même commander de son lit.
Les beaux jours pour tout changer, c'est sur but.fr. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Oui, moins 50% sur une sélection de literies. Voir sélection de produits sur but.fr. Retrait des commandes web en 2 heures en magasin.
Leclerc. Mais non, 50 centimes le kilo de pommes de terre.
Oui, et même un peu moins. Du 6 au 8 mai, c'est 99 centimes le filet de 2 kilos de pommes de terre de consommation.
Et elles sont françaises ?
Bien sûr, cultivées avec amour par des producteurs bien de chez nous.
Des patates bien élevées, quoi.
Surtout bien bonnes.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Catégorie 1, calibre 40-70 mm, variété Agatha, Harry et ou Désia selon approvisionnement. Traitement antigerminatif après récolte. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Choisir une voiture électrique peut paraître un choix radical. Sauf quand vous choisissez Renault Zoé E-Tech 100% électrique. En ce moment, profitez de l'aide à la reprise Renault de 3 500 €, de la prime à la conversion de 2 500 € et des derniers jours du bonus écologique de 7 000 €. 3 500 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, offre finalisée en concession valable jusqu'au 31 mai, conditions sur Renault.fr. Voir conditions d'éligibilité à la prime à la conversion et bonus sur service-public.fr. Concession ouverte sur rendez-vous si confinement.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Jean-Michel Guenassia qui publie Les Terres Promises, c'est un roman, le premier, Le Club des Incorrigibles Optimistes, faisait 800 pages, celui-ci 600. Il y a cette maxime que j'ai trouvée, il y a un personnage qui dit « J'ai fini par classer les écrivains en deux catégories, ceux qui vous laissent arriver à temps et ceux qui vous mettent en retard. 800 pages l'autre fois, 600 pages cette fois-ci, vous avez envie de nous mettre en retard ?»
Oui, bien sûr, mais c'est tellement bien quand on a un livre qu'on peut qui vous prend, qui vous absorbe.
C'est un choix, c'est l'histoire qui vous porte, où vous dites, je vais faire une fresque, elle va faire 800 pages.
Non,
ou est-ce que vous vous rendez compte à la page 158 que vous n'avez encore rien dit ?
Non, c'est pas l'histoire qui me porte, ce sont les personnages. En réalité, c'est l'histoire que vivent les personnages. Et elle est intéressante parce qu'ils la vivent.
J'ai mal posé ma question, pardonnez-moi.
Ils sont complètement dans l'histoire.
Les gens qui font des gros romans d'été, ils font volontairement une histoire qui fasse un certain nombre de pages. Est-ce que c'est également votre cas ? Est-ce que vous vouliez que ce soit une somme ?
Non, je voulais surtout pas. C'est parce que c'est fatigant et épuisant d'écrire un gros roman. Je préférerais écrire des romans plus courts. Puis c'est il me faut ça pour développer l'histoire, pour raconter.
Je l'ai dit, il y a beaucoup d'aphorismes. Et j'ai découvert qu'il y a, dans ce roman, et dans les précédents, j'ai découvert qu'il y a des sites de citations avec des citations rien qu'à vous. Vous avez vu ça ou pas ? Il y a 50 citations de Jean-Michel Guenassia. Vous êtes déjà allé voir vos citations ?
Oui, c'est assez amusant.
Moi, j'aime bien celle-ci. Contrairement à ce que soutiennent un tas de spécialistes, la meilleure solution pour régler un problème n'est pas de l'affronter de front, de percer l'abcès, mais de continuer à vivre comme s'il n'existait pas, de le laisser pourrir et se momifier au fond de son crâne. C'est Michel, le héros du roman, qui dit ça. C'est vous aussi, vous le pensez vraiment ?
La procrastination, oui. Il vaut mieux souvent ne rien faire et attendre que le problème passe tout seul.
C'est vrai ? Vous ne pourriez pas être un homme politique ?
Non, certainement pas.
Parce que là, on leur interdit ça. Une question qui se pose à tous les protagonistes, que faire de son destin ? Et à un moment, Michel se dit, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie, j'attends le déclic. Ouais. Et vous-même aussi, vous avez connu plusieurs vies.
J'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé par être avocat il y a longtemps, pendant 6 ans. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter à la veille de mes 30 ans pour écrire, pour devenir scénariste.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé par être scénariste. Enfin, j'ai essayé d'être scénariste.
Pour la télévision, pour le cinéma ?
Surtout télévision. Ouais. Et donc, j'ai travaillé sur des séries genre 5 dernières minutes.
C'est pas vrai.
Navarro, oh. etc.
C'est vrai ? Vous avez écrit des Navarro ?
Oui.
Il y en a un dont vous êtes fier, dont vous vous souvenez ?
Non, je m'en souviens pratiquement aucun. Enfin, c'était des... Parce que le travail est très morcelé. Moi, j'écrivais surtout des séquenciers.
Ouais.
Et donc, c'était... Être scénariste de télé, c'est pas un travail exaltant quand même.
C'est vrai.
Enfin, à l'époque, c'était pas exaltant.
Je pense à tous les scénaristes de télé, on en a reçu beaucoup ici qui nous écoutent. Et maintenant, c'est un petit peu changé avec les séries, parce que certains sont presque starisés.
Certainement, mais parce que leurs moyens sont différents. Ils ont des enveloppes budgétaires qu'on fait.
Et une liberté que peut-être vous n'aviez pas. Vous étiez bridé à l'époque ?
Complètement. C'était totalement formaté. Un formatage effrayant.
Par exemple ?
On ne vous demandait même pas votre avis. On pouvait changer un personnage masculin en féminin. C'était assez... assez contraignant de ce côté-là.
Je l'ai dit, vous avez obtenu le prix le Goncourt des lycéens pour le club des incorrigibles optimistes, ce qui était votre premier roman. Il faut quand même expliquer comment ça se passe. C'est 2 mois de débat, 52 classes de seconde, de première, de terminale. Ils ont voté, ils ont élu un roman de 800 pages. C'est vraiment un exploit. J'imagine que vous l'avez vécu intensément. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans votre existence ?
Ah oui, avec ça, ça a tout changé, bien sûr.
Votre vie a changé.
C'était très important.
Ouais. Ben on va finir sur ce mot important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les Terres Promises, c'est le retour des incorrigibles optimistes. C'est chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel Guenassia.
Merci Philippe.
Bonne route, bon vent. Demain, Culture Média revient évidemment à 9h. Nous serons avec le directeur général de la rédaction du journal du dimanche, le JDD, Hervé Gattegno. Le JDD qui lance une newsletter politique, ça s'appelle le supplément politique. Et puis un documentaire inédit consacré à François Mitterrand à l'occasion des 40 ans de son élection. Nous serons avec ses réalisateurs Gérard et Coralie Miller. Le père et la fille, juste après le flash, c'est Anne Romanoff en personne. L'émission s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.